Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, Les Tontons Farmeurs, une émission qui...
Les Tontons Farmeurs, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture.
Une émission pour vous, les agriculteurs.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Une émission de TV Agri en partenariat avec l'association CoFarming et nos partenaires, la Banque Populaire et le groupe Agrica, deux partenaires qui n'ont peur de rien et qui n'ont pas eu peur de nous soutenir et je les en remercie. Alors, qui sont nos tontons farmeurs de la semaine? Tout d'abord, Jean-Baptiste Vervy, agriculteur dans la Marne et président de l'association CoFarming. Et puis aussi, Gilles Cavalli, auteur et cofondateur de la plateforme AgriFind, une plateforme qui fait quoi, Gilles, déjà?
Une plateforme qui permet de partager ses informations d'observation sur la santé du végétal, forme d'application entre techniciens et agriculteurs.
Sans oublier Rémi M, agriculteur en Alsace. Rémi, est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien.
Et vous êtes où exactement, Rémi?
Bonjour à tous.
Oui, vous êtes où?
En plein centre Alsace.
Bon.
Et puis en plein centre Alsace, en pleine de Lille.
Et puis aussi Franck Sander, agriculteur et président de la CGB. La CGB, c'est quoi?
C'est la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves, également agriculteurs planteurs de betteraves en Alsace.
Et il nous faut un expert, et on l'a, et il en sait beaucoup sur le sujet, et il ne mâche jamais ses mots. Il s'agit de Christian Huyghe, directeur scientifique de l'INRAE. C'est bien ça, Christian?
Bonjour, oui, tout à fait, c'est ça.
Alors, cette semaine, on va ouvrir un gros dossier, un dossier qui plombe souvent les repas de famille entre les agriculteurs et les non-agriculteurs, les phytos, bien entendu, comment sortir de la guerre de tranchées, parce que c'est vrai qu'il s'agit bien d'une guerre de tranchées avec souvent caricature et idéologie à la clé. Bon, alors j'espère que vous êtes chauds, les amis, mais tout d'abord, les actus de la semaine. Et Jean-Baptiste, quelle est l'actu de la semaine qui t'a énervé? Mais pas un peu, vraiment énervé.
Alors, c'est pas l'actu en tant que telle qui m'a énervé, mais c'est un rapport de l'ONU qui vient de montrer, enfin, qui vient de reprendre que la faim dans le monde, pardon, est en train de réaugmenter. Après avoir diminué jusqu'en 2014, eh bien, il y a de plus en plus de millions de personnes qui ont faim dans le monde. Et en fait, ça fait le lien aussi avec les sujets de ce soir. Il y a plein de gens qui donnent plein de bons discours, qui ont le ventre plein. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui ne l'ont pas. Et quand les gens n'ont pas le ventre plein, c'est de l'instabilité, c'est des pays qui peuvent se soulever. Enfin, ça remet en cause la paix, ça remet en cause le progrès social. Enfin bref, et ça, c'est un vrai, vrai sujet. Et voilà, on parle de plein d'autres choses qui sont bien futiles, je pense, par rapport à ce sujet important.
Et toi, Gilles?
Ben moi, c'est une incivilité qui a conduit à perdre plus d'une tonne de petits pois. J'ai vu ça dans la Voie du Nord, sur la commune de Vieille-Chapelle. Des bouteilles de verre, des masques anti-Covid, des masques chirurgicaux et autres détritus dans le champ. Et c'est toute la benne qui est partie à la benne. Et donc, la récolte qui est perdue, le travail qui est perdu. Et puis, ben nous, on a la chance de ne pas avoir de problèmes d'alimentation, comme l'a dit Jean-Baptiste. Mais il n'empêche que c'est de la production qui ne servira jamais à personne. Et ça me révolte.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Et oui, n'oubliez pas les gars et les filles qui nous écoutaient, on a besoin de vous, on a besoin que vous nous appeliez, que vous réagissiez, que vous nous disiez ce que vous pensiez du dossier. Alors vous pouvez le faire en appelant le 07 51 53 17 27 ou aussi nous contacter via Twitter par exemple en mentionnant le hashtag TTF comme Tonton Farmer. Le dossier de la semaine, les phytos. Bon Franck, la betterave elle a pris cher cette année et cela serait la faute, d'après ce que je vois un peu sur les réseaux sociaux, aux interdictions des traitements de semences. C'est pas facile tout ça? Franck Sander.
Oui, eh ben, vous avez tapé dans le mille. Hein. C'est exactement la problématique qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on nous a dit qu'on aurait des solutions. Pas d'impasse sans solution. Malheureusement, à l'heure actuelle, on a quasi la moitié des betteraves qui sont jaunes en France avec une filière qui pourrait tomber parce que justement, les agriculteurs n'ont pas de solution et qu'en parallèle, ils s'étaient engagés justement à préserver les auxiliaires, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à une impasse qui est malheureusement politique et pas technique. Mais je vais attendre. Je suis content de pouvoir échanger, par la suite avec M. Wigg.
Exactement. Mais Christian, on va lui donner la parole parce que je suis sûr qu'il a une réponse ou une réaction.
En fait, l'interdiction des néonicotinoïdes, elle est dans le pipeline depuis un certain temps. Ils sont utilisés depuis 28 ans en culture betteravière. Et donc, pendant 28 ans, on a vécu sous un chapeau, sans se préoccuper des pucerons, sans se préoccuper de rien. Et cette année qu'on a plus le chapeau chimique, en fait, ce que l'on voit, et je comprends complètement ce que dit Franck, hein, c'est un vrai souci quand on voit cette calamité qui nous tombe dessus. Mais en fait, cette calamité, c'est quoi? C'est des pucerons qui arrivent à un moment où eux font, en gros, en tant que pucerons, pas beaucoup de dégâts. Mais surtout, il n'y a plus aucune régulation qui joue. Et la question qui est plus générale, parce qu'il n'y a pas que la betterave qui est concernée, il y a des tas d'endroits en fait qui sont concernés par ça, c'est pourquoi il n'y a plus de régulation des bioagresseurs dans les territoires agricoles.
Monsieur Wigg, excusez-moi, quand vous dites ça, je poserai juste simplement une question. À quoi servait l'INRAE jusqu'à maintenant, alors? Parce qu'il fallait quand même, on pouvait voir ça avant de les supprimer. À quoi servaient toutes ces OPA qu'on paye, nous, agriculteurs, très cher quand même, plus les finances publiques? À quoi servaient tous ces gens-là qui n'ont pas été capables de voir que si on supprime ces produits-là, on est dans une impasse?
Christian vous répond.
Alors, la question d'une impasse, telle que vous l'exprimez là, c'est quelle est la solution de remplacement exacte? C'est-à-dire, j'enlève l'un et je remets un autre produit ailleurs, enfin exactement à la place. Et la question qui se pose, et quand INRAE, je vous donnerai un exemple de ce qu'INRAE a montré là-dessus, en fait, c'est pas de la substitution. Et la question, elle est, est-ce qu'on peut penser plus large? Je reviens sur mon histoire de régulation biologique. Il y a des travaux qui ont été publiés par la première auteure est INRAE, et ça englobe beaucoup de pays du monde, qu'on a publié l'année dernière, au mois d'août 2019, qui montrent que la capacité de régulation que l'on mesure par la diversité des chaînes trophiques dans les territoires agricoles, elle s'effondre inéluctablement dès que la taille moyenne des îlots cultivés, c'est-à-dire j'ai un bloc de betterave, dès que ça dépasse 4 hectares. Alors, de fait, vous allez hurler en disant 4 hectares, c'est tout petit. Mais ce que INRA fait, c'est de comprendre ce genre de choses. Donc, INRA n'est pas là pour créer les options de remplacement. Il y a des instituts techniques agricoles qui font ça. Nous, on doit contribuer à l'innovation, c'est une certitude, et on contribue à l'innovation en comprenant et en cherchant à comprendre les mécanismes. Mais il y a parfois des options qui impose de repenser un peu plus large. Et de fait, quand on tient des discours autour de ça, ce n'est pas forcément totalement bien reçu. Et INRAE a d'autres missions. Donc, on a une mission de produire des connaissances. Très souvent, on est impliqué dans des partenariats avec les organismes économiques et avec des instituts techniques agricoles. Et par exemple, sur le cas de la betterave, on a des partenariats et des projets conjoints avec l'ITB. Et puis, on est aussi intervenant dans le cadre des politiques publiques pour aider à construire les politiques publiques de demain. Et donc, on essaie de faire tout ça. Mais il y a des sujets qui sont plus compliqués que d'autres. Et puis, si vous reprenez l'exemple des néonicotinoïdes, mais je ne pense pas qu'il faille passer la soirée sur les néonicotinoïdes, mais la question des néonicotinoïdes, elle a été le retrait de cette molécule et quelque chose qui a été décidé à l'échelle européenne et pas à l'échelle française. Hein. C'est la molécule, elle est retirée par décision, je ne sais plus si c'est 4 jours au mois d'avril 2018, mais c'est quelque chose comme ça. Et donc la molécule, elle est retirée à l'échelle européenne. Et elle est retirée non pas pour embêter les betteraviers français, elle est retirée parce qu'il y a des exemples, des démonstrations d'un effet extrêmement sévère de cette molécule sur les pollinisateurs. Et c'est pas un effet, vous allez dire, il n'y a pas de pollinisateurs qui viennent butiner sur la betterave. Le problème qu'on a, c'est que cette molécule, elle est résidente dans le sol pendant très longtemps après, et qu'elle peut être y compris absorbée par le colza 2 ans après.
Christian.
Et donc oui.
Il faut faire court, sinon il n'y a que vous qui allez parler pendant toute l'émission.
Ben oui, non, mais c'est
et voilà. On a donc, beaucoup d'autres
après,
choses à voir.
La question que l'on a sur la question des néonicotinoïdes et des pucerons de la betterave, c'est comment on arrive ensemble à penser, y compris avec les betteraviers, à penser les systèmes de demain qui vont faire baisser la pression. Il faut qu'on arrive à réguler ce sujet.
Et on va en reparler, voilà. Justement.
J'aimerais vraiment intervenir. Je suis obligé d'intervenir.
Allez-y, Franck.
Monsieur Wigg, il y a des choses qui. Voilà, on peut entendre, il y en a d'autres qu'on peut moins entendre. Je crois que la filière aujourd'hui, je ne sais pas si on se rend compte, c'est 45 000 emplois, c'est 450 000 hectares de betteraves. Si nous n'avons pas de solution dans le mois qui va venir où les assolements se décident, toutes les régions concernées vont décider d'arrêter la culture de la betterave. Et là, c'est tout un pan de l'économie qui va s'effondrer. Vous imaginez la responsabilité qu'il y a sur ce sujet-là. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la filière, les agriculteurs aujourd'hui, ils sont ouverts à travailler à condition d'avoir des solutions. Aujourd'hui, malheureusement, on voit que la génétique, que la recherche, que les cultures hautes, etc., tout ce qu'on nous dit, il nous faudra 5 ans pour l'avoir. Et c'est ça qu'on demande, c'est qu'il faut du temps, vous le savez aussi bien que moi. Après, je vais juste faire une petite parenthèse. C'est les secteurs où il y a le plus de diversité dans les territoires qui sont le plus touchés par le puceron. Et c'est les secteurs où il y a le moins de diversité dans les territoires. Et c'est bien ça qu'à un moment donné, il va quand même faire leur attention. C'est là où il y a des haies, où les pucerons, justement, ils ont cogné la haie, ils ont reculé, et c'est par là que ça a commencé. Donc attention quand même à la réalité. Ensuite, par rapport aux abeilles, le monde agricole s'est engagé aux butineurs. Il s'est engagé à ne pas utiliser de néonicotinoïdes, enfin, à ne pas implanter de culture qui serait justement susceptible d'attirer les butineurs l'année suivante. Quitte l'année d'après. Donc, le monde agricole, aujourd'hui, on sait que le risque, on est capable, à l'instant T, pendant les 5 ans à venir, de le limiter. Et c'est ça qu'il faut nous entendre. Et c'est là-dessus qu'il va falloir nous aider pour passer ce cap-là. Et derrière, on travaille ensemble, l'INRA, les instituts techniques, pour trouver des solutions.
On aura l'occasion d'en reparler. Mais juste avant, les tontons, chaque semaine, je vous demande de bosser dur, de faire 2 propositions qui mériteraient peut-être d'être intégrées dans une future loi. Et vous allez pouvoir défendre vos idées devant Sandrine Lefeur, députée du Finistère. Et attention, faut pas lui raconter des cracks, car elle est avant tout agricultrice. C'est bien ça, Sandrine ?
Oui, bonjour. Effectivement, je suis députée et agricultrice et j'attendais d'intervenir avec impatience.
Bon, mais très très bien, vous allez pouvoir. Mais juste avant, Jean-Baptiste Vervy, qui a bossé, va vous faire une proposition, une idée qui semble intéressante pour l'association CoFarming et pour lui en particulier. Et pourquoi pas, vous allez donner votre avis et pourquoi pas porter une telle idée. Jean-Baptiste, on t'écoute.
Ouais, ok, merci. Donc l'idée... C'est comme on l'a entendu juste avant, on le comprend en fait, la société veut globalement qu'on limite l'utilisation des produits phyto. Mais les produits phyto, globalement, naturels ou de synthèse, de toute façon, sont là pour protéger et garantir l'alimentation en volume et en qualité et en sanitaire. Donc en fait, comme on va dans ce sens-là, l'idée c'est de proposer une assurance agroécologie ou alors une assurance alimentation made in France, puisque le consommateur et la société française veut qu'on arrête un certain nombre de produits. Eh bien, il y a des années, on va faire des pratiques qui vont permettre de passer et la nature va s'autogérer. Moi-même, étant agriculteur en agriculture de conservation et testant un tas de choses, il y a des choses que l'on peut faire et puis il y a des fois, c'est des choses qui ne passent pas. Et du coup, à ce moment-là, les années où ça passe pas, eh ben, l'assurance payée par la société, puisque c'est le pacte qu'on a à avoir entre nous deux, entre les agriculteurs et la société, eh bien, viendra compenser cette différence. Alors, pour illustrer ça, c'est très clair. Le blé, par exemple, dans la Marne, a aussi été touché par des pucerons. C'est 30 quintaux de différence, c'est 450 euros de l'hectare. Sur une ferme moyenne qui fait 50 hectares de blé, c'est un salaire, en fait. Donc, s'il y a une assurance à dire voilà, vous pouvez vous engager à utiliser réduire les phytos et à utiliser des pratiques qui vont marcher, pas marcher, suivant les années, parce que c'est pas si évident que d'utiliser des produits phytos. Eh bien, si ça se passe mal, l'année où il y a beaucoup d'insectes, beaucoup de maladies, eh bien, à ce moment-là, en fait, on vient compenser la différence.
C'est vrai que les assurances sont là pour couvrir les risques. Baisser les phytos, c'est prendre un risque supplémentaire. Si la société le veut, pourquoi pas, dans ce cas-là, financer ce risque. Sandrine, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ?
Alors, c'est une proposition qui peut s'entendre, mais moi, je ne la validerai pas sous cette forme-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a la politique agricole commune, alors qui est ce qu'elle est et qui, pour moi, doit grandement évoluer, mais qui est aussi là pour soutenir les agriculteurs qui prennent ce risque-là, justement, de se passer ou réduire les produits phytosanitaires, que ce soit pour les agriculteurs qui font le choix d'aller en agriculture biologique, mais aussi pour ceux qui décident de passer à ce qu'on appelle des mesures agro-environnementales et climatiques. Ce sont les MAEC en Bretagne, elles sont très développées. Et les agriculteurs qui prennent ce risque-là, justement, de se passer complètement ou de diminuer les phytos, ils ont des aides de la PAC et quelque part, ça vient aussi couvrir cette assurance dont le monsieur parlait, récolte-là due aux baisses de rendement.
Alors, Madame Lefebvre, en tant que députée, vous devriez savoir que la PAC n'a pas été instituée pour ça. L'origine de la PAC, c'est quand même de pouvoir offrir à manger à nos concitoyens à vil prix pour que de l'autre côté, ils puissent acheter l'iPhone à 1500 euros.
Oui, Rémi.
Donc, aujourd'hui, la PAC en céréales, au niveau des céréales, on l'a beaucoup diminuée. On l'a diminuée de plus de moitié en disant et prétextant toujours que les céréaliers sont les gros riches de France.
Oui, mais Rémi, c'est un autre débat.
Il y a quelque part un problème.
Il faut laisser répondre.
Mais la PAC, elle a été faite à un moment donné de l'histoire où effectivement, elle était faite pour sortie de la guerre, en fait, hein, pour que tout le monde puisse manger. Il fallait produire énormément de nourriture. Aujourd'hui, en France, ce n'est plus le cas. Les enjeux, ils sont sur les enjeux et les attentes citoyennes, elles sont sur d'autres choses. Parce qu'effectivement, en France et en Europe, globalement, ça a été dit au début, on n'a pas ces problèmes d'approvisionnement en alimentation ou très peu. Dans d'autres pays, c'est différent. Mais la PAC, elle évolue aussi. Aujourd'hui, elle est telle qu'elle est. Elle est sûrement à revoir. Et elle va vers des mesures beaucoup plus agro-environnementales. Et justement, à mon sens, elle devrait servir aujourd'hui à ça.
D'accord, mais Sandrine, l'idée, Sandrine, il y a un risque, par exemple, dans l'assurance récolte aussi, qui est couvert par l'assurance récolte, qui est financé en partie par les budgets européens aussi. On pourrait imaginer qu'il y ait une assurance phyto, enfin, baisse des phytos, comme ça, ça inciterait beaucoup plus de monde à y aller, au-delà des systèmes de fonds, entre guillemets.
Vous savez, quand c'est des histoires d'assurance, quelque part, les agriculteurs les payent aussi à la fin. Donc, moi, je suis très méfiante quant à ces sujets d'assurance-là. Je préfère que, voilà, dans un volet de la PAC, on établisse et on crante aussi les choses. Moi, j'ai promis dans la loi Egalim de valoriser tout ce qui est les hautes valeurs environnementales, les HVE. Il faut les valoriser, il faut les mettre en valeur pour qu'il y ait une alternative entre ceux qui font le choix de passer en bio, les agriculteurs qui ne souhaitent pas forcément faire beaucoup d'efforts en termes de réduction des phytos et ceux qui restent inconventionnels mais qui font énormément d'efforts pour réduire les phytos. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver.
Bon, Jean-Baptiste est recalé. Voyons, Gilles, est-ce qu'il aura meilleure chance? Gilles, ton idée?
Je vais peut-être avoir plus de chance. De la même façon que la France interdit l'importation de bœuf aux hormones, et c'était confirmé là avec les derniers débats sur le CETA, pourquoi ne pas, il y a beaucoup d'incompréhension de la part des agriculteurs producteurs en France, d'avoir des produits qui viennent de l'étranger, Union européenne ou hors Union européenne, et qui sont produits grâce à des produits phytopharmaceutiques interdits sur notre sol. Et donc, ils ne comprennent pas qu'on puisse s'alimenter avec ce type d'aliments qui bénéficient de produits interdits. Et je sais que c'est possible, puisque pour le diméthoate qui est utilisé sur la cerise, tous les ans, le gouvernement français reconduit l'interdiction d'importation des cerises produites grâce au diméthoate. Alors pourquoi, on peut parler autre chose que des néonicotinoïdes. Demain, si effectivement le glyphosate est interdit, ne pas tout simplement interdire tous les produits où le glyphosate a bénéficié dans la culture.
Exactement comme on le fait avec la javel ou les.
Alors
les
un glyphosate ne peut pas bénéficier à la culture parce qu'il le détruit. C'est bien un gros problème de compréhension au niveau des écolos et de toute la tranche verte.
Arrêtez. Vous avez très bien compris ce que j'ai dit. Si vous désherbez avant implantation grâce à du glyphosate et que demain ça se passe au Maroc, au Kenya, au Brésil et que le produit arrive en France sur les étals françaises, dans les biscuits français ou quoi que ce soit, il y a bien une distorsion de concurrence. Pourquoi on l'interdit chez nous et on l'autorise à l'extérieur, à l'instar du bœuf aux hormones?
Sandrine, votre avis?
Oui, moi je valide complètement cette proposition. C'est vrai qu'on est toujours, dans la loi Egalim, j'ai porté cette proposition et on est toujours confronté à ce fameux préférence de communautaire. En fait, on n'a pas le droit en Europe, on n'a pas le droit, entre guillemets, de faire des préférences comme ça sur nos produits. Donc, on a réussi à le faire sur la viande, avec la viande de porc France, sur le bœuf aussi. Et il faut largement qu'on l'élargisse à d'autres produits. Alors, interdire les produits qui viennent de l'étranger et qui ont bénéficié de produits interdits en France, ça c'est compliqué, mais en tout cas, mettre en valeur nos produits français avec nos cahiers des charges, ça, moi, j'y souscris complètement. Mais il y a un sujet, effectivement, pour interdire les produits sur le sol français qui ne respectent pas le cahier des charges élevé qu'on se met, que ce soit en bio ou en conventionnel, d'ailleurs.
Bon, il faut favoriser la convergence européenne.
Il y a bien un article de l'ESEGA qui, justement, devrait interdire l'importation des produits. Donc, n'importons pas l'agriculture dont nous ne voulons pas. Pourquoi est-ce qu'on l'a dans la loi française et est-ce qu'on ne l'applique pas au même titre que ce qu'a dit M. Huyghe, qui n'est pas juste, l'Union européenne interdit effectivement certains néonicotinoïdes, mais autorise des dérogations. Qu'est-ce qu'on a fait en France, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, sur les 19 pays producteurs de betteraves, il y en a 13 qui utilisent encore des néonicotinoïdes. Donc, clairement, c'est la distorsion de concurrence. Alors qu'on est en Europe et la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous met en difficulté. Donc, à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout des choses. Soit on nous met en distorsion, soit on nous accompagne. Malheureusement, aujourd'hui, l'agriculteur, il n'est pas accompagné. Et peut-être juste une simple réflexion. Remettons les chiffres également face à la réalité. Aujourd'hui, les aides PAC dont vous avez parlé tout à l'heure, qui devraient orienter l'agriculture française, c'est vrai, sauf qu'aujourd'hui, les aides PAC constituent malheureusement le revenu de l'agriculteur. Donc, si vous voulez faire changer le monde agricole à travers des aides PAC, la première des choses, c'est de redonner du revenu aux agriculteurs, tel que vous avez souhaité le faire, mais malheureusement, jusqu'à présent, ça n'est absolument pas le cas, puisqu'on nous charge, des contraintes supplémentaires qui font que nos coûts de production augmentent, et le prix, à l'heure actuelle, on ne voit pas du tout l'augmentation dans nos résultats, malheureusement.
Alors, si on va droit au but, et si on se dit peut-être que dans le fond, les gouvernements successifs, bah, ils font du greenwashing, mais ils n'ont peut-être pas envie d'aller vraiment vers l'interdiction des phytos ou vers l'agriculture bio. Enfin, ça dépend un peu. On va écouter Gilles Rivière-Weckstein, il est rédacteur en chef de la lettre Agriculture et Environnement, et il a une idée bien arrêtée sur la question.
Alors, il y a un rapport parlementaire qui est sorti au mois de janvier et qui répond justement à cette question. Et le rapport, je l'ai ici, il fait plus de 200 pages. Et en fait, il dit clairement que les moyens ne sont pas mis pour aboutir aux objectifs qui ont été fixés pour 2022. Donc, c'est clair et net, les moyens ne sont pas mis selon le rapport parlementaire. Alors, c'est assez paradoxal, parce que quand on regarde les chiffres de l'agence bio, on a plutôt l'impression que tout va bien. 12 milliards de chiffre d'affaires, les surfaces augmentent, etc., etc. Mais comme toujours, le détail, le diable est dans le détail. Et quand on regarde la réalité du bio, ce qu'on voit surtout, c'est une augmentation des importations, non seulement en pourcentage, mais également en volume. Donc, pour l'instant, toute la politique de l'agriculture biologique favorise les importations et donc fragilise notre balance commerciale. Alors, ce que ça implique aussi, si le rapport, ce que dit le rapport est correct, visiblement, c'est que c'est beaucoup plus une façade. C'est-à-dire que l'idée, c'est de avoir, c'est en fait, on fait du greenwashing. Hein. On dit voilà, regardez, nous on est vertueux, on veut plus de bio, etc. Mais on s'en donne pas les moyens. Et moi, je trouve que c'est tout à fait normal de pas s'en donner les moyens, parce que les gens qui connaissent la question savent très bien que l'agriculture biologique n'apporte rien en termes de qualité nutritionnelle. D'ailleurs, je rappelle que le ministre de l'Agriculture actuel vient de dire que l'agriculture française produit la meilleure alimentation du monde. Or, la meilleure alimentation du monde est produite par 96% de surface en conventionnel.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouh là là.
Sandrine,
alors, il y a une chose. Vous avez un titre pour cette émission, hein, l'histoire de l'âge de guerre. Il y a quand même, si on revient vraiment aux fondamentaux de ce titre-là, si on dépassait la guerre des tranchées. Je crois que ça c'est la première des choses. Vous savez, dans le monde agricole, il y a beaucoup de gens qui ont fait des avancées, qui font du progrès, qui créent du progrès, qui essayent des solutions, qui font des réductions. Personnellement, par exemple, avec mon frère, on fait des réductions de produits phyto depuis 30 ans. On n'a rien demandé à personne. On n'a pas attendu que quelqu'un, un jour, se réveille et nous dise « Tiens, il faudrait réduire ». On n'a rien demandé à personne. On a employé d'autres techniques. On fait de la communication. vous voyez, France Agricultos, bon, je fais partie des premiers membres et tout, beaucoup de nos collègues agriculteurs veulent communiquer, communiquent, essayent de faire de leur mieux. Là aussi, il y a un gros problème, c'est, vous pouvez communiquer autant que vous voulez, tant que vous n'avez pas de récepteur qui veut écouter ce que vous avez à dire, de toute façon, l'âge de guerre, on ne pourra pas l'enterrer.
Jean-Baptiste Hervy, c'est
aujourd'hui,
vrai...
le gros problème, ce sont ces gens-là qui ont pignon sur rue, soutenus par des journaleux qui racontent n'importe quoi. Il suffit de voir, alors peu importe, généralement on dit que après vous êtes du lobby Monsanto, du lobby ci et du lobby ça. Il faudrait peut-être que le monde agricole et Madame le député qui se dit en plus agricultrice devrait peut-être y réfléchir, à calmer certaines ardeurs de certains qui en mettent plein la vue que soi-disant l'agriculture conventionnelle, tout ça c'est du pipeau. Il faut plus parler de conventionnel, ni de bio, ni rien. Il faut créer du progrès, il faut créer de l'avenir. C'est ça qui est important. Et c'est là qu'on va enterrer l'âge de guerre.
Oui, mais tout le monde ne voit pas l'avenir.
Mais il faut arrêter le prosénétisme de certains imbéciles.
Tout le monde ne voit pas l'avenir pareil. Jean-Baptiste Hervy, vous dites un peu que, quelque part, les structures ont du mal à se réinventer. C'est vrai que quand on est distributeur, quand on fait 25% de marge sur des phytos, ça va être compliqué de se réinventer.
Ah, tu m'amènes sur des sujets, Jean-Paul, c'est bon, ça. En fait, avant de répondre, mais juste pour dire quand même que on l'a dit, en fait, l'agriculture française, elle a fait des efforts depuis longtemps. Et je ne vois pas pourquoi on va remettre encore un HVE, puis après, dans 5 ans, on va reporter encore un autre label qui n'est jamais valorisé, alors que le standard du produit français, il est déjà meilleur que les autres. Donc le prix du produit français devrait déjà être payé plus cher. Alors c'est peut-être populiste, mais à un moment donné, dans du marketing, c'est pas le même produit, il n'a pas été payé pareil que les autres.
Et
ça doit être un standard parce que ça fait déjà 20 ans. Après, il y a un sujet, c'est qu'effectivement, comme Rémi, moi et d'autres, il y a plein d'agriculteurs qui tentent des choses. Et aujourd'hui, qui tentent des choses tout seuls. C'est-à-dire qu'on va plus vite que certaines organisations agricoles parce qu'on amène aussi du changement. On avait une habitude avant, on disait un problème, un produit, une solution. Maintenant, c'est plus comme ça. On met des cultures associées, on essaye des préparations naturelles, on essaye des rotations, enfin, on rallonge les rotations. Enfin, tout ce que vous nous dites, monsieur de l'INRAE, enfin, on le pratique, quoi. On n'est pas des bénets. On essaye de le pratiquer. Ça marche ou ça marche pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'autour de nous, et là, c'est plus un problème de changement humain et de business model. C'est que tout l'écosystème qui fonctionnait sur aussi de l'accompagnement, de la vente de produits, tout le monde doit se réinventer. Et même une coopérative, si elle a envie de le faire, et évidemment qu'elle a envie de le faire, elle est face à un problème, c'est qu'elle revoit ses équilibres financiers. Et puis qu'elles disent à ces X personnes sur le terrain, les gars, vous avez toujours fait comme ça, maintenant on va faire un petit peu différemment. Ah ben ouais, mais non, mais on est d'accord, pas d'accord. Et là, c'est du management d'entreprise. Et donc, il y a quand même cet effet-là qu'il faut tenir compte, c'est que les agriculteurs changent et l'écosystème doit changer, mais il faut comprendre pourquoi l'écosystème a du mal à changer et ça prendra un peu de temps, quoi.
Christian,
là, il y a un gros problème.
Non. Moi, j'aimerais rebondir sur les propos qu'on vient d'entendre.
Sandrine et Christian.
Franck,
Sandrine d'abord.
Ah, pardon.
Sandrine, on vous écoute.
Non, j'aimerais rebondir sur les propos de Gilles Rivière-Einstein. Parce que, déjà, je suis d'accord avec lui, et c'est assez rare, mais sur un point quand même, sur le fait qu'il n'y a pas les moyens qui ont été mis globalement sur. Alors, lui, il cible le bio, mais moi, je voudrais parler. Du soutien aux agriculteurs quant à la transition et à la réduction des produits phytosanitaires. Il y a beaucoup trop, effectivement, d'agriculteurs qui, sur leur ferme, essayent seuls des techniques et qui manquent d'accompagnement. Pour ce qui est de la valeur nutritionnelle, ce monsieur-là assène beaucoup de vérités qui n'en sont pas, en fait. Et moi, je suis à chaque fois en colère quand je l'entends parler. Bon, j'ai déjà eu des débats avec lui et bon, c'est assez rageant de l'entendre asséner des vérités qui n'en sont pas. Pour la personne qui me dit, la députée qui se dit agricultrice, je l'invite à venir sur mon exploitation et voir au quotidien le jonglage que je fais entre ma vie de famille, mon mandat de députée et aussi mon métier d'agricultrice, parce que j'ai tenu à conserver les deux et c'est pas pour rien. C'est aussi pour avoir les deux pieds sur terre et dans la terre, et ça, c'est important. Je suis aussi d'accord et je voudrais réagir avec la personne qui a dit qu'il était temps d'enterrer la hache de guerre. Moi, mes voisins autour de moi, ils sont tous conventionnels. Et j'ai pas peur de dire conventionnel et bio parce que c'est une réalité et c'est un mode de production qui est différent et on s'entraide tous, on échange des techniques que ce soit sur du binage, de céréales ou de légumes. Moi, ça fait que 5 ans que je suis agricultrice, donc et mon voisin ça fait 30 ans, donc il a beaucoup de choses à m'apprendre bien qu'il soit en conventionnel. Donc l'âge de guerre sur le terrain, elle n'existe pas réellement. Ce sont quand des syndicats, des politiques, des ONG s'emparent de ces sujets-là, où là, on voit des batailles qui se créent et c'est vraiment inutile au progrès de l'agriculture et à la réduction des produits phytosanitaires de manière générale.
Franck.
Voilà ce que je voulais vous dire.
Mais Madame Lefeur, j'aimerais bien vous entendre dire ça haut et fort devant tout le monde.
Elle l'a dit.
Parce
elle
que
l'a dit
justement, c'est ce que je disais.
Je le dis tout le temps.
C'est dit. Franck, je vous avais réservé la place.
Oui, merci, merci. Moi, j'aimerais rappeler que le monde agricole, lorsqu'il peut s'en passer, il s'en passe. Et là, en tant qu'agriculteur, quand je n'ai pas besoin de traiter, je ne traite pas. On le sait, tout le monde est conscient de la problématique. Par contre, il ne faut pas non plus laisser rêver les gens et laisser penser que demain, on ne protégera plus nos plantes. Au même titre que nous-mêmes, on peut tomber malade, on attrape la grippe, on se soigne, nos enfants tombent malades, on les protège. Et nos cultures, demain, elles tomberont malades. On le sait, certaines années plus que d'autres, avec l'humidité, avec la chaleur, etc. Prenons d'autres exemples. L'ambroisie aujourd'hui. C'est un vrai problème en France, l'ambroisie. Qui va gérer le problème de l'ambroisie? Sûrement pas nous, les agriculteurs. Moi, j'entends les pieds sur terre, dans la terre, etc. On est tous agriculteurs et je trouve que c'est un beau métier dont il faut être fier. Mais en même temps, eh ben, il y a des choix qu'il va falloir faire à un moment donné. Le prix de l'alimentation, la protection des plantes, la qualité sanitaire. On parle de mycotoxines dans les céréales, il n'en était pas question il y a 10 ans encore. L'ambroisie, qui va le gérer à un moment donné, ça passera peut-être aussi par des nouveautés, des révolutions. En attendant, on ne les a pas, la recherche, la génétique, etc. On est ouvert, les agriculteurs, nous sommes ouverts à toutes les solutions. Et si nous pouvons nous passer des produits phytosanitaires, nous le ferons. Et lorsque on n'aura pas le choix, eh ben, c'est là qu'il va falloir être suffisamment intelligent pour continuer à les utiliser.
Alors, les agriculteurs conventionnels, quand on leur parle de macération, souvent ils disent « Oh, ça c'est un produit, macération, purin d'ortie, tout ça, ça ne marche pas ». Je ne sais pas si vous connaissez Stéphane Biot. C'est un agriculteur de Lyon, super pointu depuis des années en matière d'agriculture de conservation. Et je crois que Jean-Baptiste, tu as été visiter sa ferme. Donc c'est ouais, vraiment un gars qui est intéressant. Et vous allez écouter, il nous parle des macérations. Et pour lui, ça marche.
Les macérations depuis 2011, puisque toujours comme je suis dans une zone intermédiaire, on a toujours cherché à être à l'optimum de nos traitements. Depuis les années 2000, on était en bas volume, on s'est soucié de la qualité de l'eau pour ne pas dégrader les produits, des conditions d'application pour être de plus en plus efficaces, tout du moins efficients, et pouvoir en mettre le moins possible. Un peu, je dirais, de manière hasardeuse, on a découvert l'effet des macérations dans un essai fongicide en 2011, ce qui nous a plus que interpellé, suite de quoi on s'est formé et on a mis en place peu à peu déjà un réseau d'essais dans notre groupe d'agriculteurs, ce qui nous a permis de faire une synthèse de 5 à 6 ans d'essais sur une quinzaine d'exploitations, répartis sur 4 départements, ce qui est avec une moyenne tout à fait honorable, puisque on est au même niveau que les protections fongicides. Alors bien sûr, on a eu des déboires, ça s'utilise, on a eu la chance d'avoir des très bons résultats en 2011, parce que sinon je serais peut-être pas aujourd'hui devant vous en train d'en parler, parce que c'est surtout pas comme ça qu'il faut les utiliser. En fait, avec des produits en IDE, en insecticides, herbicides, fongicides, vous êtes en lutte contre quelque chose. On lutte contre un symptôme, alors que avec les macérations, on s'intéresse davantage au milieu et aux causes. Donc, dans un système, on lutte contre quelque chose, et dans l'autre, on essaye de fabriquer de la santé végétale, si je puis dire. Et en fait, c'est un produit qui s'utilise bien sûr en préventif. C'est, si vous avez déjà entendu parler des phénomènes d'oxydoréduction, on entend parler d'ailleurs à publicité et ailleurs des produits antioxydants, eh bien la macération est un produit réducteur, donc antioxydant pour nos cultures.
J'aimerais bien avoir l'avis de Christian là-dessus, de l'INRAE.
En fait, cet exemple, je ne vais pas commenter cet exemple-là, mais plus globalement, en fait, comme je disais tout à l'heure, le rôle de la recherche, c'est de chercher à comprendre des choses et on sait qu'il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. On est au tout début de la découverte de deux champs en particulier extrêmement intéressants par rapport à la protection des cultures. Le premier, c'est découvrir qu'autour d'une plante saine, il y a un microbiote, comme vous avez un microbiote dans l'estomac. Et de fait, les macérations, elles vont influencer là-dessus. Et en fait, ça, c'est une inversion totale par rapport à la vision que l'on a d'un fongicide. Un fongicide, ça consiste à, comme vient de le dire Stéphane, ça consiste à faire tout propre après. Donc on a une maladie, on cogne dessus, il n'y a plus rien. Et de fait, on fait une feuille qui est totalement vide et qui est un terrain, un lieu d'atterrissage merveilleux pour la maladie d'après. Or, on découvre que...
Mais monsieur Huyck, feuille... excusez-moi,
si je peux finir, ça ne serait pas si mal. Ce qui fait qu'une plante saine, c'est une plante qui est couverte d'un écosystème compliqué. Et ça, c'est une porte ouverte absolument énorme pour penser demain. Rémi. Le deuxième élément, c'est l'écologie chimique. On découvre aujourd'hui pourquoi un insecte vient quelque part. Et donc, plutôt que de le tuer, il faut faire en sorte qu'il n'arrive pas. Et ça ouvre tout un champ énorme autour de la protection des cultures qui est apprendre à réguler, et ça a été dit un peu plus tôt, plutôt qu'à cogner dessus. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne, qu'on comprenne ce genre de choses et qu'on le traduise le plus vite possible en système. Sortir d'un système qui repose sur le tout chimique, parce que c'est quand même ça, même s'il y a des tas d'agriculteurs, et c'est très bien, qui ont bougé, il y en a quand même un certain nombre qui n'ont pas bougé de ça. Et il faut réussir à obtenir cette transition-là. Il ne faut pas se tromper de combat. Ce qu'on doit obtenir, c'est la protection des cultures, ce n'est pas l'usage des phytos. Les phytos, ça n'est qu'un moyen, et il faut chercher à l'utiliser en dernier recours, de façon à les garder, mais à l'utiliser en dernier recours.
Monsieur Huyck, c'est le biocontrôle, c'est tout simplement, c'est ce que vous dites là, c'est le biocontrôle. Moi, ça fait quelques années que je sème le blé en bio, enfin, sur les essais de biocontrôle fongicide à l'INRA à Colmar. Donc, je pense savoir un peu de quoi je cause quand même. C'est le biocontrôle. Les pionniers en semi-direct, parce que aujourd'hui on met plein de terminologies, comme nous, c'était déjà l'objectif qu'on avait. Et c'est pour ça qu'on a déjà réduit les produits phyto depuis très longtemps. Mais par contre, comme Franck vous disait tout à l'heure, ne nous supprimez pas tout avant qu'on ait compris, avant que justement vous-même, vous les scientifiques, vous ayez déjà compris et trouvé des solutions pour remplacer ce qu'on a aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, comme disait Franck, on met le moins de produits possible parce que, contrairement à ce que croient les gens, on n'arrose pas. Contrairement à certains journaux qui ont montré des images, on n'arrose pas du tout parce que ça coûte de l'argent, ça coûte vraiment très cher et on sait très bien que si on en met trop, on va le retrouver dans l'eau parce qu'on est consommateur aussi, on vit sur un territoire, on tient à le préserver et il faut qu'on arrête de nous mettre tout le temps cette image sur le dos.
Il nous reste deux minutes pour prendre quelques questions. Je suis désolé, mais il faut prendre des questions d'auditeurs, notamment Monsieur Bio qui dit « Au lieu d'aller vers plus d'interdictions à coups de bâton, pourquoi ne pas copier le système suisse avec leur programme Extenso qui rémunère des pratiques vertueuses ?» Sandrine Lefeur, la question est pour vous.
C'est très bien.
Oui, moi je suis d'accord avec ça et c'est justement le sens que l'on veut donner à la politique agricole commune avec un pilier dans le pilier 1, un écosystème où là des aides vont être conditionnées à des efforts environnementaux et puis avec tout le pilier 2 qui va être maintenu et amplifié où là on a la conversion au bio mais aussi les MAEC, etc. Donc on a nous cette politique là mais au niveau européen pour le soutien vers une agriculture avec et j'utilise toujours réduction des produits phytosanitaires et je n'utilise pas le terme suppression des phytosanitaires, vous l'aurez remarqué quand même. Donc parce que je trouve effectivement qu'il y a parfois des conditions météorologiques, des années où ce serait compliqué de s'en passer totalement. Ça, je suis d'accord. Et donc c'est à travers la PAC parce que c'est notre politique agricole commune où on va pousser ces sujets-là et puis après ce sont les régions qui les déclineront sur le pilier 2 de la PAC.
La PAC.
Il y a un sujet, Jean-Paul, il y a un sujet. Il faut arrêter avec la PAC. La PAC, tous les ans, on va discuter du budget. C'est très clair. On fait des produits qui sont bons, qui sont payés au bon prix. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Et il n'y aura pas de bagarre entre. Il y en a un qui tape plus dans l'enveloppe de la PAC parce qu'il est des plaines, il est de la montagne, et c'est les régions qui veulent prendre le budget de la PAC. On s'en fout. Payez le produit au prix de la qualité du produit.
Et ça,
si la qualité du produit, il est bon, il est sorti d'un autre standard, alors on arrête les blablas de logo, de charte, et on le paye. Et ça, en tant que députés et les sénateurs, légiférer, protéger, parce que la Suisse, ils protègent, hein. Ils accompagnent et ils protègent.
19h...
il est payé cher, même conventionnel.
19h40, il faut que j'arrête l'émission, ça fait déjà 40 minutes qu'on discute et je vous remercie tous nos invités et eux et invités et d'avoir participé à cette émission. Je tenais aussi bien sûr à remercier l'association CoFarming et puis nos sponsors, la Banque Populaire et le groupe Agrica, sans qui cette émission ne pourrait pas exister. Donc je les remercie, c'est tout à fait normal. Je vous invite bien sûr à suivre cette émission sur notre chaîne Power Boost sur YouTube, puisque c'est TV Agri qui produit cette émission en association avec le CoFarming. Et puis, je tenais à vous dire que rendez-vous le mardi 18 août prochain à 19h. Et oui, les tontons farmeurs vont prendre quelques jours de repos pour se changer un petit peu les idées, peut-être aussi changer d'air, revenir en pleine forme le 18 août à 19h pour aborder un vrai sujet tabou. Ont-ils mérité d'être agriculteurs? Ça sera la question de notre prochaine émission. Mais d'ici là, je vous en dis pas plus. Je vous laisse cogiter. Et je vous souhaite surtout de bonnes moissons pour ceux qui ont encore des moissons à faire. De bonnes vacances pour tous. Et puis, je vous dis à bientôt. Et merci à vous, mes invités, d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée.
Merci.
Merci. Bonne soirée.
Merci.
Au revoir à tous.
Au revoir.